Les peignoirs, arrêtez les tricots, faites les raccords de maquillage. Et toi, envoie-moi la musique.
Ouais, et je l'avais où ?
La musique ? La merde.
Quand je pense quand même que. Et les gens qui vont tomber là-dessus en nous écoutant, soit en live, soit sur le podcast, et qui vont se dire, mais attends, vu l'heure, est-ce qu'ils ont le droit de passer comme ça du Jean-Yann au teneur hautement sexuel ?
Bah, il faut savoir s'il y a des gens qui sont levés à cette heure-ci.
C'était ça ou parcé du Fred Rabold. Hein,
ah.
Maintenant, Fred Rabold, le kitsch bavarois, j'ai cédé toute ma collection à du sport. On a dit c'est fini.
Non.
Bientôt, notre générique de départ aussi va être terminé. Ce sera un nouveau. Ouais, ça sent la rentrée. Quoi.
On sent les moyens aussi.
On sent les moyens, oui. On s'est donné à fond. On a voulu être professionnel, tout ça. Tu crois que vu notre qualité d'émission, on devrait passer chez Booster FM, là, au studio à côté ?
On va faire coucou.
Bah, c'est grand ouvert, il n'y a pas Loïc, donc il m'inquiète.
Ah merde.
Ah putain. 10 secondes, parce que j'ai mon texte qui est prêt, merci. Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 30 août 2008 et il est exactement midi à Toulouse et tout sur tout le faisceau.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite en direct dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, TV, DVD, fait bouquin et plein d'autres choses.
Et suivi de
la bande de nuit, puisque du sport n'est pas là, il est en vacances avec toute sa famille et tout ça, donc tant mieux pour lui. Mais à 15h, c'est du reggae avec normalement ses Poupa Christopher. Et à 17h, FMR cède la place sur 89.1 MHz pour Booster FM. Ceci dit, bonjour et bienvenue. Oui, j'ai été coupé, c'est le même faisceau horaire, d'ailleurs verticalement sur la map monde. Voilà. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Ça va bien ?
Pas trop chaud, ouais, ça va.
Pas trop chaud, non, ça va. On a inventé une clim, ça s'appelle une douche habillée, froide, et puis après avec le courant d'air, normalement, ça te rafraîchit.
Ah, d'accord.
Ça t'enrhume le nez aussi, c'est pas génial. C'est... Voilà, on est en cave, on va parler d'une télé qui elle aussi se fait en cave. Puisque c'est une émission qui était prévue la semaine dernière, elle était reportée pour les raisons que vous savez, c'est-à-dire les 10 ans d'attaque, et donc une interview très très longue. Et en attendant, which today's advanced recording technology places within your record. Que de la musique japonaise dans la prog. De la musique que ne passe pas la chaîne No Life, attention, mais qu'on aimerait bien qu'il passe. On va commencer avec Danky Groove, toujours cet album A, qui n'est jamais sorti en France pour une raison qu'on ignore, édité chez Sony Music, je crois. Danky Groove, qui au départ était un groupe plutôt variétoche, années 80, qui, avec la vague de la dance, de la techno et tout ça, s'est remixée elle-même, avec beaucoup d'humour. Beaucoup de délire, beaucoup de fun. C'est un... Donc là, c'est le morceau, c'est Wicked Jumper. Et je dois remercier encore une fois Dominique Véret, qui est le cofondateur de Tonkam, pour vraiment avoir fait découvrir cette musique-là, pour avoir fait découvrir personnellement.
Merci Dom Dom pour toute notre programmation musicale dans l'émission.
Voilà, et c'est dommage qu'on ait pas beaucoup entendu à Japan Expo, parce que ce mec a beaucoup de choses à dire justement sur ce qui se passe en Asie depuis maintenant plus de 15 ans. Mais on va en parler de toute façon dans cette interview. Allez, je vous laisse quand même. We'll be right back. réveille un petit peu. On passe s'emballer dans le studio, c'est génial et tout ça. On va peut-être commencer par de l'actu bande dessinée. Sachant qu'on a pas de chronique, et j'avais promis d'ailleurs un bouquin de David H, de Vanida, la semaine dernière. Oui. Bah, voilà, c'est pour la rentrée, donc c'est pour la semaine prochaine. Puisqu'on va parler de notre partenaire dans lequel on écrit, qui s'appelle ActuaBD. ActuaBD.com est un site d'information dont on a le triomphe très modeste d'être classé meilleur site d'information sur la bande dessinée par l'Écho des Savanes. Mais en plus, c'est aussi un site qui héberge les Amis d'Hergé, l'un des rares sites internet qui parle extensivement de l'œuvre d'Hergé sans avoir été poursuivi par Moulin Sarrassa à ce jour. Alors oui, on dit ça parce que tout simplement Objectif Tintin, qui est un site d'information qui est très pointu sur le domaine, qui existe depuis quasiment 10 ans, hein, qui est le meilleur site d'information sur l'œuvre d'Hergé, sur Tintin, sur Josette et Joko, qui est Fluke et tout le reste, va fermer le 15 septembre. Il se saborde tout simplement parce que Moulin Sarrassa fait pression sur le nom de domaine qui leur convient pas, sur l'utilisation de la marque déposée Tintin. Bah oui, c'est une marque déposée. Sur le fait qu'ils citent l'œuvre sans leur demander l'autorisation, sur le fait que quand ils citent l'œuvre, eh ben ils leur demandent pas l'autorisation sur les textes, etc. On sait qu'ils sont très procéduriers. Nick Rodwell, le patron de la société qui gère les droits sur l'œuvre d'Hergé. Et là voilà, ben ça a été la coupe est pleine, et ils ont dit ben voilà, ben on arrête. Alors ActuaBD remercie et félicite l'équipe d'Objectif Tintin pour le travail sérieux et de qualité qu'ils ont dispensé ces dernières années. C'est vraiment dommage qu'ils ferment, parce que bon, c'est vrai que c'est la bande dessinée qui est morte par rapport à ce qui vit dans le manga et tout ça, mais quand même, c'est un point de culture qu'on ne peut pas laisser de côté, on le regrette. D'un autre côté, ils ont eu un chant du cygne assez rigolo, puisque Objectif Tintin a ouvert le 12e album des aventures de Titeuf, qui est sorti, qui est arrivé en librairie il y a moins d'une semaine, et ils disent que Plage 14, eh ben, il y a de quoi faire interdire le bouquin par Nick Rodwell et Moulin Sarrassa. Dans un gag intitulé Tintin le dégueulasse, Titeuf rend à la bibliothèque un album de Tintin au Tibet qu'il a emprunté. Comme il en a perdu quelques pages, il les a remplacés par des playmates de Playboy. La bibliothécaire, évidemment, n'est pas dupe sur cette atteinte à l'intégrité de l'œuvre. Comme le remarque le site d'information sur RG, qui a été obligé de se saborder, comme on a annoncé, la charte n'est pas respectée. Utilisation du nom de Tintin. Imitation de la couverture d'un album, association à l'œuvre d'Hergé d'image licencieuse, absence de copyright. Votre compte est bon, monsieur Zepp et monsieur Glénat, et pour ainsi avoir bafoué le droit d'auteur et le droit moral, vous allez devoir retirer de la vente, in petto, les quelques 1 800 000 exemplaires imprimés. Aïe aïe aïe. Alors est-ce qu'ils vont aller aussi loin? Ouais, Nick Rodwell, comme il dit, il faut avoir le contrôle sur l'image de Tintin. Vous savez, quand je fais ça, c'est physiquement, c'est que je crois qu'il y en a qui ont un petit peu les boules. On passe évidemment à Albert Algou et à tous les autres qui ont beaucoup travaillé pour moderniser, pour avoir une écriture critique, une lecture critique sur Tintin, et qui ont été interdits parce que voilà, ils utilisaient une image ou bien ils utilisaient le nom. C'est pas très fin, ben voilà.
C'est là qu'on mesure le degré d'investissement des Américains pour le film de Jackson et Spielberg pour pouvoir communiquer là-dessus.
Ouais, et que Nick Rodwell a fait un gros boulot de nettoyage qui est anglais, hein, et qui est marchand d'art au départ, hein, qui n'a pas connu Tintin par les livres, mais plutôt par la série animée des années 60. Ouais, bon, ok. Donc voilà. On attend de voir, là aussi, bon, on comprend, hein, c'est tout à fait compréhensible, après tout, qu'on contrôle l'œuvre. Mais à ce point-là, faut avouer, c'est quand même des brise-bonbons. Lors du festival Japan Expo qui a eu lieu en juillet dernier, début juillet dernier, on a eu l'occasion de rencontrer Sébastien Ruchet et il nous a accordé une interview. Une interview plutôt longue, le son brut fait plus de 45 minutes. Là, il était un petit peu réduit, vous comprendrez. Sébastien Ruchet est l'un des deux fondateurs de la chaîne No Life. Alors, No Life. No Life est une chaîne d'allumés pour les allumés. À moitié en cave, un banc de montage, adossé à une bande d'arcade et des émissions enregistrées, soit dans une toute petite pièce, soit chez les animateurs. On est à milieu des canons de la télévision. Et pourtant, c'est le laboratoire qui va permettre de réconcilier toute une génération rétive à la télévision. Au point de se servir de ce meuble à regarder autre chose que des chaînes de télé, à jouer à la console. Il est temps de rattraper ça, et pour cela, il leur parle au cœur. Pas d'explication oiseuse sur la signification du mot RPG, le Bluetooth ou le beat'em all, pas de description des formés, des passionnés de l'informatique, non, toute l'essence des geeks, des otaku, des nerds, des no life quoi. La musique de la quotidienne 101% a été composée par Akira Yamaoka, compositeur de Silent Hill et Beatmania. Tokyo Café a été composée par Sanodg, qui est le compositeur des jeux Rise Racer, Tekken et Dragon Dragon. Le J-Top a été composé par Tour de Satellite. Et le thème de la chaîne qu'on entend derrière par Koshiro Yuko, compositeur de Street of Rage, ActRaiser et Shenmue. Forcément, face à des références comme ça, et ben même les grands médias comme France 3, Canal+, Libération n'ont pu s'empêcher d'aller les voir, de faire un sujet pour eux. Mais c'est quoi cette chaîne commerciale qui ne prend pas ses spectateurs pour des ignares, qui leur parle franchement et fait plein de vannes hyper référencées, jusqu'au slogan « Il n'y a pas que la vraie vie dans la vie ». Le sujet est très intéressant car c'est un média qui pourrait durablement marquer ses spectateurs. Pourtant, cette chaîne a failli disparaître. Le 13 juin dernier, ils sont même tapé le luxe de mettre en scène la mort de leur chaîne, pour mieux annoncer un partenariat avec l'éditeur Ankama. On sait qu'ils sont sympas chez les ch'tis, mais la petite chaîne de passionnés aux petits moyens va-t-elle se faire bouffer toute crue par le gros éditeur de jeux vidéo ? Sébastien Ruchet et Alex Pilot étaient avec tout leur staff à Japan Expo. On a eu la chance d'intercepter ce qui tient chez eux de grands chefs. C'est rarissime qu'un patron de chaîne exprime ce qu'il pense, qu'il n'a pas eu de tabou à nos questions, qu'il prenne autant de temps pour discuter pour un média comme le nôtre, même pendant un événement très intense pour leur production. Et tout, Omar ? Mais il en avait ras-le-bol de No Life ! No Life par-ci, No Life par-là, No Life après le déjeuner de la pré-émission et tout ça. Je suis sûr que je lui demande ce qu'il pense de cette chaîne, il va dire des gros mots.
Non, pas du tout. On apprend beaucoup sur l'histoire des jeux vidéo et bon, y a, tout n'est pas. Enfin, j'apprécie pas tout ce qu'il y a dessus, mais c'est vrai que quand on va chez un passionné comme toi, on est bien obligé de se soumettre à la religion.
C'est-à-dire à le regarder. Faut savoir que toi, le jeune, je veux dire pas forcément le prépubère ou celui qui n'a pas encore le droit de voter, non, toi aussi, le jeune adulte, c'est-à-dire le moins de 40 ans, on te prend pour un con. Alors il se trouve qu'il s'est passé un truc assez rigolo. Est-ce que tu sais, Thomas, comment on fait l'audience des radios? C'est-à-dire la télé, c'est simple. Il y a un gros boîtier au-dessus de ta télé. T'appuies quand tu es là ou quand tu es pas là.
Il y a pas de palettiste en radio.
Alors en radio, on fait des sondages téléphoniques. On vous appelle et on vous dit bonjour monsieur, où c'est que vous habitez, quelle est votre profession et quel est votre âge. Et ensuite on te dit quelle radio vous avez écouté à 7h du matin et à 19h. C'est-à-dire uniquement à 7h du matin et à 19h.
Donc les autres émissions comptent pour des prunes.
Exactement. Comme par hasard, on te met des émissions, c'est tous les grands magazines d'actualité que tu as à ce moment-là. Tu as France Inter, tu as bien évidemment l'émission interactive, tu as tout ça, tu dis, mais c'est réducteur. C'est pas étonnant que les radios ne percent pas. Oui, sauf que les radios associatives comme les nôtres, si on n'est pas dans les audiences, c'est tout simplement parce qu'on ne paie pas. Donc on nous supprime du pourcentage. Il se trouve qu'en plus, il y a 10 jours, j'ai eu un coup de fil me demandant d'être panéliste pour mes habitudes d'écoute radio musicale. Alors monsieur, quel âge vous avez ? Bon voilà, hein, je suis dans la catégorie jeunes adultes. Qu'est-ce que vous écoutez comme radio ? FMR, Campus, BBC One Extra et Soma FM. Elle n'a même pas relevé les orthographes. Du style, elle n'a pas cité les radios. Les radios, mais vous savez, avec un grand R. Alors, elle me dit, alors pour mieux cerner votre habitude d'écoute musicale, quelle radio écoutez-vous parmi celles-là ? Virgin Radio, NRJ, RTL2, Chérie FM, Skyrock, Fun Radio et Nostalgie. Alors là, je me suis dit, attendez... jamais il me viendrait à l'idée d'écouter une seule de ces radios. Il ne passe pas d'indépendant, il ne passe pas de réelle découverte. Non, je suis pas dedans. Ah bon, ben merci monsieur, au revoir. En clair, si vous n'écoutez pas les 7 radios qui passent les titres des 4 majors, votre avis compte pour du beurre. Oh ben tiens, oui, mais à force de marginaliser tous ces gens-là, ça commence à en faire beaucoup. Des gens qui n'écoutent plus la radio parce qu'on ne les réduit qu'à ça, même s'il y a d'excellentes stations, dont la nôtre, dans le lot, ou celle que j'ai citée, qui les écoutent sur le net, qui écoutent des podcasts, comme le nôtre, ou qui achètent des musiques sur iTunes, qui téléchargent, ou qui s'échangent des disques. À partir de là, on se dit, il y a de la place pour, ben, tout simplement... Pour les marges, il y a autre chose.
Alors c'est le moment de soulever une interrogation qu'ont beaucoup d'admirateurs de notre émission. Tout le monde nous demande, comment pouvez-vous vérifier l'audience de votre émission, de votre radio ?
Eh bien tout simplement, on ne peut pas. On est obligé de monter nous-mêmes nos propres sondages et tout ça. On sait que statistiquement, quand on fait gagner un truc, il y a une personne sur 100, je crois, auditeurs qui va appeler. Et donc, on arrive à savoir à peu près combien on a d'auditeurs à peu près en journée.
Bon,
on ne peut pas savoir en radio.
S'il n'y a personne qui appelle, on n'a pas 100 auditeurs. Donc.
Voilà. Par contre, sur le podcast, vous nous écoutez, vous êtes assez nombreux, ça nous fait énormément plaisir, vous n'êtes pas loin de 1000. Ça, c'est des chiffres qu'on peut certifier, puisque je le vois dans les téléchargements sur mon serveur. J'ai des statistiques assez précises. Après, je sais que l'émission passe par des proxys, c'est-à-dire que ensuite c'est démultiplier les téléchargements sur d'autres trucs dont je n'ai pas le contrôle. Il y a des gens qui se les passent entre eux, trucs comme ça. On a des fous furieux qui nous écoutent en Algérie, qui nous écoutent sur des Nintendo DS et qui se partagent l'émission. Moi, ça me fait beaucoup plaisir de savoir ça. Puis il y en a d'autres qui nous écoutent sur leur iPhone. Donc c'est pas une émission qui est formatée pour les podcasts. Un podcast, idéalement, j'ai calculé au tout début du format qu'il fallait que ça soit 15 minutes, mais j'ai foutu l'intégralité de l'émission. Voilà, on dure une heure et demie, une heure trois quarts. Hein, voilà, c'est comme ça. Ben voilà, on fait ce choix-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y a quand même des gens qui nous écoutent. Donc, à force, justement, que les grands médias minorent tous ces genres, il y a suffisamment de gens et surtout les moyens deviennent suffisamment modiques pour créer des médias à part. Alors, il y a Éphémère qui existe depuis 81, il y a des sites web qui commencent à se lancer, etc. Et puis maintenant, il y a une chaîne de télé, et donc, il y a Sébastien Ruchet qui a créé No Life. On va écouter Dieu.
Sébastien Ruchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc, comment doit-on dire, président, fondateur, directeur, gérant de No Life ?
Alors, à la base, je suis co-fondateur de No Life avec Alex Pilot. Mmh. Et effectivement, j'ai le titre de président de la chaîne. Concrètement, ça veut dire que Alex, lui, s'occupe d'avoir du beau contenu à l'antenne et moi, je m'occupe de toute la paperasse.
La première question, ça concerne un peu les origines de votre boîte de prod, Pocket Chamis. Il y a eu une autre chaîne de jeux vidéo. Je ne sais pas si ça vous gêne de la citer.
Non, mais alors... à la base, je connaissais bien Alex parce que on avait travaillé ensemble sur des courts-métrages amateurs, donc France 5. C'était une super expérience et moi, ça m'a fait plonger carrément dans le domaine du film, en fait, du court-métrage, mais de beaucoup d'efforts, beaucoup de métiers qui se réunissent pour à la fin donner un épisode, voilà, que les gens peuvent regarder et apprécier. Et on s'est aperçu qu'on bossait plutôt bien avec Alex, donc lui à la réalisation et moi à l'organisation. Donc moi, j'ai une formation d'ingénieur. Et Alex, lui, était pigiste bon, pour plusieurs sociétés. Effectivement, il travaillait aussi à Game One. Et il allait souvent au Japon. Et je savais qu'il y avait des opportunités de faire beaucoup de choses, mais qu'il ne pouvait pas vraiment concrétiser. Donc, j'ai proposé qu'on monte ensemble une structure, juste pour qu'il ait un nom derrière, pour qu'il puisse garder les images pour lui. Et c'est comme ça qu'on a créé Pocket Chamis. Donc Pocket Chamis, c'est une société de production qui est aujourd'hui pas mal dormante, donc qui a travaillé pour beaucoup de chaînes, mais aussi de... Alors on a fait pas mal de documentaires pour Game One, on a fait des petits sujets en sous-traitance pour, je vais pas dire de bêtises, pour Europe 2 TV à l'époque, on a fait beaucoup de bonus DVD aussi, on a travaillé pour le Japon quand ils avaient besoin d'images pour la France, notamment pour le studio Ghibli. Donc bon, bah, c'était un petit parcours de petite boîte de prod bien spécialisée sur le Japon. Et puis bah, voilà, il y a 2 ans, maintenant aujourd'hui, on a eu connaissance des nouvelles régies de diffusion numérique mises en place par Connect G Image. Donc des régies qui offraient la possibilité...
Des serveurs de diffusion en fait.
Oui, c'est ça. Donc, on imagine une régie, c'est un endroit avec plein de d'écrans dans tous les sens, des gros serveurs, des bandes de partout et des techniciens qui se relaient, qui font les 3 et 8. Ben, tout ça, on le remplace par un ordinateur qui diffuse des vidéos suivant une playlist prédéfinie. Ça, c'est une grosse révolution dans la télé, puisque du coup, des gens comme nous peuvent créer leur chaîne. Et c'est carrément dingue, hein. Je pense que c'est une révolution équivalente aux radios libres à l'époque. Sauf qu'il n'y a pas forcément encore beaucoup de gens qui se sont rendus compte de ce qu'on pouvait faire avec. Peut-être que No Life, bon, qui marche plutôt pas mal aujourd'hui, va donner des idées, je ne sais pas. Pourquoi pas, j'espère.
Alors justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de Pocket Chami et de No Life, depuis la création de No Life, est-ce que Pocket Chami arrive encore à produire du contenu qui ne soit pas justement pour cette chaîne de télévision ?
Non, Pocket Chami ne fait plus rien depuis le lancement de No Life. C'était vraiment une société de 2 personnes et là 2 personnes qui sont à temps plein sur No Life.
Donc c'est stop quoi. No Life a comme base de structure une télévision musicale, une télévision musicale thématique, même si une grande partie quand même des sujets qui sont tournés pour No Life concernent les jeux vidéo. Est-ce qu'on est actuellement dans la même situation que les années 90 où les notes critiques que l'on donnait pour les jeux vidéo eux-mêmes étaient critiquables ? Ou si c'était à 70%, c'était des grosses bouses ?
Alors, donc effectivement, No Life est déclaré auprès du CSA comme chaîne musicale. C'est vrai que le gros truc de la chaîne, c'est la musique japonaise. Bien sûr, on est soumis au quota comme tous les autres radios et télé françaises. Maintenant, bon, on peut quand même passer 6 heures de musique japonaise par jour, mais pas fermé en fait. On n'a pas appelé ça Japan TV ou Samurai TV. Déjà, ça aurait été super ringard au Japon, ça aurait été ridicule. Mais aussi, ça nous aurait enfermé dans le Japon. Et même si y a beaucoup de Japon à l'antenne, par exemple sur le jeu vidéo, on a un traitement mondial. Et donc là, vous parlez de notes attribuées à un jeu. C'est quelque chose de très difficile d'attribuer une note à un jeu.
Pourtant, tout le monde le fait, hein. Et ça date de Tilt.
Beaucoup de gens le font. Nous, on ne le fait pas. Je crois que d'autres magazines avaient tenté aussi de ne pas le faire. Dans la presse papier, c'est vrai que c'est un peu plus une tradition. C'est un gros casse-tête. Nous, on pense que ça n'aurait pas été très pertinent dans le traitement des jeux. De toute manière, on a, dans le traitement du jeu vidéo à l'antenne, on a essayé d'être un petit peu novateur, enfin pour la France du moins, parce que jusqu'ici, le jeu vidéo, un test de jeu vidéo présenté à la télé, jusqu'ici, c'était plutôt un test papier mis en image, sans profiter vraiment des possibilités du média télé. Ce qui est dommage parce que notamment au Japon, ils font des choses très poussées là-dessus. Je pense aux explications sur le gameplay, le game system, où on n'hésite pas à encercler une jauge pour expliquer à quoi elle fait, ou à faire une pause sur l'image pour dire bah voilà, à cet instant-là, tel challenge s'offre au joueur, on peut revenir en arrière, voilà. Et c'est des choses qu'on essaye d'intégrer à l'antenne. Alors c'est difficile, hein, il faut se donner du mal pour avoir des choses vraiment bien. Et No Life, c'est vraiment beaucoup de boulot, donc on essaye vraiment au maximum pourtant. Mais on accorde toujours une place très importante au gameplay en parlant d'un jeu. On n'est aussi pas dans l'optique où, après je sais que dans la presse papier, on est souvent dans une mise en avant du chroniqueur, très poussée. Alors après, c'est sûr que c'est pratique pour les gens, ils savent que tel gars, il aime tel type de jeu ou pas, et puis peuvent le faire confiance sur tel type de jeu. Mais c'est un petit peu bizarre en télé, donc on essaye d'avoir un ton assez unifié, et là, c'est chapeauté par un rédacteur en chef, donc c'était moi au début, c'est Thierry Falcoz aujourd'hui, quelqu'un qui a énormément d'expérience dans le milieu, qui était vraiment la personne là, qui pouvait reprendre tout ça, parce que moi j'ai plus le temps, et que ce soit moi avant ou lui maintenant, donc il y a toujours une vision sur le traitement du jeu à l'antenne et sur les critiques de jeux qu'on présente sur No Life. On dit des critiques comme pour des critiques de films, parce qu'on est jeune et ambitieux et on veut changer le monde et les conventions.
C'est justement à partir de ce que l'on voit dans les critiques qu'il y a dans 101%, c'est une écriture qui est assez adulte, puisque dans la plupart des traitements que l'on voit à côté, c'est des traitements qui sont plutôt simplifiés. Là, il y a vraiment une analyse du jeu, une analyse critique très pertinente, vraiment montrée. Est-ce que ça a été votre idée dès le départ, ou est-ce que finalement ça s'imposait parce que personne ne le faisait ?
Je pense que on a notre traitement du jeu. En fait, tout ce dont on parle sur la chaîne, on prend ça très au sérieux. Je pense qu'on peut prendre l'exemple de Pokémon. Pokémon, on prend ça très très au sérieux sur la chaîne. On a des gens...
Ils disaient ça sans rire jusque-là.
Des gens pour qui ça rigole pas du tout et qui se sauront avoir un avis là-dessus. Alors que Pokémon, c'était souvent décrié, ah, le truc pour les gamins, mais en fait, bon, bah, nous, on en a un, des adultes qui jouent à Pokémon. Moi, bon, j'ai quand même fini le dernier Pokémon, hein, faut pas... Et c'est un super jeu, évidemment. Un succès comme ça, ça se sort pas par hasard. Donc, Pokémon, c'est un jeu, c'est un RPG, un jeu d'aventure. Là, on l'a dit, on est content, ça a été pas mal repris après. Enfin, je sais pas si c'est un petit peu de prétention, mais en tout cas, le traitement des derniers Pokémon, globalement, en France, a été un petit peu mieux que ce qu'on espérait. Ça a été un peu plus pris au sérieux, comme on voulait le faire nous. Et donc, ça, on en est content. Après, le traitement des jeux, c'est juste qu'on prend ça au sérieux, on fait ça avec passion, comme pour tout le reste. Donc ça s'impose, je dirais. Ouais.
Début des années 2000, Marcus a eu le malheur de dire du mal d'un jeu édité par Infogrames, qui était à l'époque l'actionnaire principal de Game One. Ça a créé le fameux incident Marcus. Marcus est revenu à la télévision principalement sur No Life, même s'il avait eu d'autres expériences à côté de cela. Est-ce que finalement le fait qu'Ankama ne fasse que du jeu sur PC et ne fasse rien sur console, excepté la Nintendo DS, ça vous permet de vous dire, ben, on peut se lâcher et dire du bien des autres, tranquillement?
Alors, il y a plusieurs choses là dans cette question.
Je sais, c'est fait exprès.
Donc, Marcus tout d'abord, donc un animateur, enfin un journaliste du jeu vidéo qui a un CV assez ahurissant, il n'y en a pas beaucoup comme lui. C'est quelqu'un aussi qui est très très fort à l'antenne, et c'est vrai qu'il a travaillé beaucoup sur Game One et il a eu une expérience malheureuse là-bas. Et suite à ça, bah, il travaillait plus trop en télévision. Alors, il fait plein de choses, hein, Marcus, c'est clair. En tout cas, nous, on le connaît bien. Et quand on a eu l'idée de monter No Life, bien sûr, on est allé lui en parler. Et puis, il nous a proposé de faire une émission. En fait, là, c'est complètement comme il voulait. Là, on a suivi, on réalise exactement comme il veut. Et bah, c'est une super émission et on est très content. Donc là, il y a quelques semaines, on a annoncé l'arrivée d'un partenariat avec Ankama, qui est un éditeur de jeux vidéo, mais pas que, et No Life. Donc on sait qu'on peut être attendu au tournant là-dessus. Alors est-ce qu'il va y avoir des pressions internes sur les jeux Ankama et tout ça? Je pense que là, comment dire? Déjà, faut voir qu'Ankama, au niveau jeu, ils font du MMO, donc ils ont un gros titre, un deuxième qui arrive, mais c'est pas comme s'ils sortaient des jeux tout le temps. Ensuite, il faut voir que l'arrivée d'Ankama, c'est pas comme l'arrivée d'un autre actionnaire. C'est des gens qui nous ressemblent beaucoup, Alex et moi, la trentaine, créatifs, indépendants. Et c'est vraiment différent d'une relation business habituelle, dans le sens où là, ils ont été clairs, ça ne les intéresse pas de contrôler ce qu'on fait, ils veulent qu'on puisse se donner à fond de notre côté, et que ça marche, et que tout le monde soit content. Et ben, on n'a eu aucune pression de leur part, mais surtout, d'eux-mêmes, ils nous ont proposé de nous laisser le contrôle complet de la structure No Life. Donc c'est ce qu'on a le privilège d'avoir aujourd'hui. C'est une offre un peu exceptionnelle dans ce genre de milieu. Et c'est difficile de réaliser à quel point c'est bien et confortable par rapport à ce que ça aurait pu être. Parce que c'est vrai qu'on était en difficulté, donc on aurait pu aller voir d'autres gros groupes de télé. Et là, ça ne serait pas du tout passé comme ça. Des gens qui auraient pris le contrôle et auraient détricoté tout ce qui fait la sympathie et l'unicité de la chaîne. Donc, et ceci encore une fois étant dit, bah nous, à No Life, on est assez proche du public. On en a parlé, bien sûr, avec Marcus de cette arrivée et tout ça. Lui, il est toujours maintenant un petit peu méfiant de ce genre de choses, mais je peux vous dire franchement que si un jour il y a des problèmes, Marcus le dira, et voilà. Hein. Là, il est indépendant, il fait ce qu'il veut, mais vraiment, on a du mal à imaginer comment ça se passe bien pour l'instant. Et ce qu'il y a en Kama, c'est que, donc, on s'est rencontrés à l'occasion d'un documentaire qu'on faisait sur eux, on a découvert un peu tout ce qu'ils faisaient. Et pour eux, No Life, c'est un choix stratégique intéressant, pas vraiment par rapport à leur activité de jeux vidéo, c'est bien pour communiquer, voilà, pour en parler, mais c'est surtout que c'est des gens qui se diversifient de manière vraiment étonnante. Ils se sont lancés dans l'édition, ils se sont lancés dans la presse, ils se sont lancés surtout dans l'animation, et c'est là qu'ils ont encore des gros projets de développement, et dans ce sens-là, une chaîne de télé avec des possibilités de diffusion, avec un savoir-faire audiovisuel, c'était vraiment logique.
Ils avaient un projet justement de création de chaîne de télé. qui courait dans les milieux spécialisés. On parlait régulièrement d'Ankama TV.
On parlait d'Ankama qui vous avait laissé une grande liberté pour le contenu de No Life, à part une condition. Alors ce catch sur No Life, c'est quand ?
Bah, en fait, je disais tout à l'heure, les gens d'Ankama, ils sont plutôt comme nous et tout. Et il faut voir que, surtout Tot, donc le directeur créatif, est vraiment fan de catch, d'UFC, de baston de manière générale. Et franchement, nous, si on avait la possibilité de diffuser du catch japonais, je pense que ça peut faire un carton si c'est bien traité. C'est quelque chose, bien sûr, qui peut se faire. Il faut voir que. Avec Ankama, il n'y aura rien en moins à l'antenne sur No Life, mais il y aura beaucoup de choses en plus, un peu de tous les côtés, mais bah, ça ne sera pas des émissions sur la couture, ça ne sera pas des trucs comme ça, mais je pense que là, avec le catch, je vous disais tout à l'heure, on n'a pas voulu faire une chaîne avec un nom japonais, parce que ça nous laisse la possibilité de rester ouvert sur tout un tas de domaines, et on a vu là, on a présenté des émissions sur l'horreur, sur les comics, d'autres choses encore qui vont arriver bientôt, j'espère. Donc c'est vraiment une chaîne ouverte où on ouvre la voie un peu à tout ce qu'on peut aimer de notre côté et aux gens qui nous, ce qui plaît aux gens qui nous ressemblent. Voilà.
Puisque on parlait avant que justement c'est l'autre partie du contenu qui est le contenu musical, on va peut-être plus s'intéresser sur votre programmation, puisqu'en fait vous avez fait un parti pris qui était, ben, puisqu'on a des quotas français, qu'on a une obligation d'horaire pendant votre période de prime time de 40% de musique française, vous avez décidé, plus 20% de nouveautés, vous avez décidé de passer justement des labels indépendants français. Ils ont été contents de ce côté-là, ils ont de suite tous répondu oui en disant oui, on est content d'avoir une chaîne qui nous diffuse enfin, ou ils ont été un peu sceptiques au départ.
Alors, il faut voir que actuellement sur les chaînes musicales françaises, donc pour eux ce qui marche c'est tout ce qui est américain. Donc quand ils sont soumis au quota, c'est quelque chose de très difficile, mais bon, il y a toujours les blockbusters français. Nous en tant que chaîne musicale, c'est sûr que notre quota étranger c'est pour le Japon. Et après, on doit passer du français aussi. Donc, on a pas mal réfléchi et c'est vraiment très difficile. Et si on avait passé aussi du blockbuster français, je dirais, ça aurait été un peu beaucoup comme toutes les autres chaînes musicales françaises. Et il y en a. Donc, ça aurait été un peu nul. Donc, ces quotas qu'on nous oblige, qui sont carrément hors de la thématique de la chaîne, on s'est dit, ben, autant que ça serve, autant que ce soit différent, autant que ça puisse aider des groupes, quoi, des gens. Et, donc, on a décidé de diffuser des indépendants. Donc, il faut voir que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, il y a un gros travail qui est fait par des gens de l'équipe là-dessus, de contact, tout ça. Là, ça se passe beaucoup mieux qu'au tout début de la chaîne, parce que c'était vraiment quelque chose d'inimaginable, je pense, à l'époque. Mais là, bah, les labels voient que c'est possible. On accepte, je crois, quasiment tous les clips qu'on reçoit. Il faut juste que ce soit de qualité diffusion télé. Ce qui n'est pas forcément évident. Si le son est nul, ça ne va pas. Si l'image tremblote, bon, bah, faut quand même un minimum de qualité. Hein.
On a un bon exemple, ça s'appelait Zik, édité par le groupe Abessat. C'était pas toujours très visible.
Bon, donc voilà, les indépendants, on diffuse, on est content. Alors, donc les quotas, c'est un peu délicat pour vous rappeler comment ça fonctionne. Donc, on doit respecter la diffusion sur les œuvres audiovisuelles, c'est-à-dire tout ce qui est news, enfin émissions de flux, jeux télé, ça compte pas. Mais les clips musicaux en font partie, les fictions en font partie, les séries en font partie, les dessins animés en font partie. Donc, c'est sur les œuvres audiovisuelles, on doit diffuser sur la globalité de l'antenne 40% de contenu français, 20% de contenu européen et 40% de contenu étranger. Et ces pourcentages, on doit les respecter sur l'ensemble de la grille, mais aussi sur les heures de grande écoute, qui sont globalement entre 18h et 23h sur une chaîne classique.
Sur une chaîne classique, parce que sur une chaîne musicale, les heures de grande écoute sont plus grandes.
Non, mais chaque chaîne peut négocier ses heures de grande écoute, en fait, avec le CSA. Pas mal de... comme ces quotas, c'est quelque chose qui est une épine dans le pied de tout le monde, commercialement ou créativement. Pas mal de chaînes essayent de, comment dire, d'avoir des horaires de grande écoute les plus souples possibles, et des fois ça passe pas avec le CSA. Si vous allez sur le site de CSA, vous regardez les news, il y a toutes les décisions, compte rendu. Ça bouge en ce moment pas mal sur la TNT. En tout cas, dans le cas de No Life, c'est 17h30 à 23h. On a aménagé, voilà, en commençant une demi-heure plus tôt. Les clips français, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre dedans les ressources qu'on déploie, toute l'énergie qu'on déploie par rapport au contenu qui vient du Japon, sur lequel on se bat vraiment à fond, et on se bat tellement qu'on est épuisé pour le reste. Mais ces indépendants français, il y a matière à faire plein de choses très intéressantes derrière, et c'est juste une question de moyens et d'effectifs et de temps de sommeil. Je vous le dis honnêtement, mais c'est amené à se développer, à devenir quelque chose de très bien. En tout cas, c'est ouvert vraiment à tous. Si c'est un groupe, si c'est filmé dans un garage à la campagne, ça peut très bien passer aussi. Il suffit que ce soit propre techniquement.
Et un contenu éditorialisé, justement, autour de la programmation musicale française ?
Oui, alors il y a une personne qui est en charge, effectivement, de cette programmation, qui chapeaute l'équipe qui gère tout ça. C'est Patrick Giordano, qui est le directeur de la société de production Game Production.
Et faire des émissions aussi importantes que le J-Top ou Auto sur la programmation française, cela vous intéresserait ou finalement, non, vous préférez vous concentrer peut-être plus justement sur votre spécificité japonaise ?
Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est loin encore de nos objectifs, d'avoir tout ce qu'on veut par rapport au Japon. Il y a encore tellement de travail. Et ensuite, quand on sera satisfait... et qu'on pourra se développer comme on veut, ben là, on pourra avoir... Il y a des gens aussi qui nous demandent de la musique coréenne ou chinoise. On n'est pas fermé, hein, d'avoir des petits créneaux de temps en temps, sachant que de toute manière, là, c'est du quota étranger, donc on veut garder le plus possible pour le Japon. Mais c'est quelque chose en plus... Bon, à la boîte, on parle pas mal tous japonais, mais coréen ou chinois, pas du tout.
Et là, il faut les contacts et il faut prendre beaucoup de temps.
Oui, alors donc c'est un peu délicat, donc je dis pas que ça arrivera pas à terme, mais il faut voir comment, encore une fois, une question de temps de sommeil.
Vous avez réussi récemment à diffuser des clips qui sont produits par l'une des plus grosses boîtes de production japonaise, qui s'appelle Avex. Comment ils vous voient sur l'archipel, vous ?
Avex, c'est un des gros majors de l'industrie du disque japonaise. Et en fait, ils voient qu'il se passe quelque chose par rapport à la France spécifiquement, mais ils ont du mal à voir la visibilité sur l'Europe spécialement. Je sais qu'ils m'ont souvent demandé comment ça se passait en Europe, pourquoi, est-ce qu'il y avait, quels étaient les concurrents directs de No Life, mais non, No Life, c'est quelque chose d'unique là-dessus. Et il faut voir que niveau audience, la musique japonaise, c'est important pour plein de gens, mais c'est pas les scores du jeu vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait parce qu'on y croit et parce qu'on veut créer une visibilité là-dessus, qu'on veut donner la place aux artistes, parce qu'on aime ça. Pas alors qu'au Japon, c'est quelque chose qui est très demandé médiatiquement. Donc il faut bien expliquer comment ça se passe en France, tout simplement.
Et les labels indépendants japonais, est-ce que vous les avez approchés ? Est-ce qu'ils sont venus vous voir parce qu'ils ont entendu parler de ce canal de diffusion possible à l'étranger ?
Oui, alors depuis, on démarche pour ce qui est de la musique. On travaille bien sûr avec tous les labels français qui distribuent officiellement de la musique japonaise en France. On travaille aussi directement avec le Japon, et ça depuis maintenant plus d'un an et demi même. Et aussi bien on va voir les majors que les indépendants, et ça c'est au détour de contacts dans le milieu. Ça se fait, ça se met en place, et on peut retrouver pas mal d'indés sur nos lives qui là peuvent très bien marcher. Des fois, on peut avoir des partenariats très intéressants. Par exemple, le groupe Oral Vampire, quand on l'a rencontré, c'était un groupe indépendant qui n'avait pas de clip. Donc, ils avaient des moyens, ils avaient un endroit, des costumes, des choses, mais pas de clip. Donc, Alex, qui était là au Japon, a pu caler une après-midi pour faire un tournage et leur a monté un clip en France. Donc voilà, c'est un clip qui a été numéro 1 au J-Top, après qu'on leur a renvoyé au Japon. Et depuis, le groupe a signé avec Avex, justement. Donc ça se passe plutôt bien pour eux, nous on est très contents. Il faudrait qu'on fasse un super truc avec eux en France, ils viennent de temps en temps, mais pas assez bien mis en valeur, je pense.
On va entamer maintenant les parties qui sont peut-être plus administratives. Vous avez d'abord été commencé à diffuser sur le réseau télé de l'opérateur Free, puis ensuite vous êtes arrivé chez Alice et ensuite chez Neuf qui va devenir SFR. Est-ce que vous avez des contacts avec Orange, avec Numericable et avec CanalSat ?
Oui.
Alors CanalSat, maintenant qu'ils sont les opérateurs uniques par satellite, je suppose que maintenant ils demandent un gros ticket d'entrée.
Alors, c'est, C'est un domaine assez complexe, tout ce qui est diffusion de chaînes. Mais dès le début, bien sûr, on a démarché tous les opérateurs. Après, c'est des choses qui se font progressivement, qui se débloquent au fur et à mesure. On a eu vraiment énormément de chance de se lancer avec Free, qui nous a fait confiance. C'est vraiment super. Voilà, ça nous a permis de tout faire. Et après, c'est pas des questions de tickets d'entrée, c'est des questions de mise en place. De toute façon, il y a toujours des partages de coûts, de ressources entre les chaînes et les opérateurs. C'est toujours des négociations au cas par cas. Après, suivant la diffusion et l'opérateur, il peut y avoir des coûts plus ou moins élevés, mais après, tout se négocie, hein, je vous dirais. Donc, c'est une question aussi de montrer que c'est populaire, voilà. Et là, en fait, en commençant sur l'ADSL, c'est aussi la possibilité. Donc, l'ADSL, c'est des sociétés plus jeunes, plus énergiques, qui n'hésitent pas à reprendre des chaînes. Donc là, voilà, comme nous. Et après, ça nous permet de montrer que c'est quelque chose qui marche et d'aller plus loin. Maintenant, il faut voir que je pense qu'avec No Life, on est dans un fonctionnement un peu différent de la mise en place de télé thématique câblée traditionnelle. Ça, par exemple, c'est une grande partie de mon travail à moi. Et depuis le début. Et là, avec l'arrivée d'Encamad en partenariat dans No Life, c'est une pérennité qui est assurée pour la chaîne et qui me permet de faire avancer pas mal de choses avec d'autres opérateurs. Et je pense qu'on va pouvoir faire des annonces très bientôt.
D'accord. Sourire entendu pour ceux qui ne captent pas la couleur. No Life est quand même à la base une entreprise, donc une société commerciale. Est-ce que vous arrivez à... Enfin, vous n'avez pas encore réellement réussi à diffuser de publicité. Est-ce que ce qui vous gêne, c'est parce que vous devriez déléguer à une régie publicitaire qui ne serait pas sûre de vendre correctement votre marque et votre image? Ou est-ce que c'est, disons, le nombre limité de foyers sur lesquels vous êtes disponible?
Alors, la publicité, c'est... assez complexe. J'ai beaucoup appris depuis le lancement de la chaîne et là je pense qu'on sait où on va. Il y a plusieurs paramètres. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que No Life, pourquoi ça fonctionne et ça perdure, c'est parce qu'on sait fonctionner avec vraiment 3 francs 6 sous et des bouts de ficelle. Même si on essaie toujours d'avoir une qualité, un rendu télécablé à l'antenne, c'est pas forcément évident. Mais on a eu la chance, en se lançant, de pas être tout seul, d'avoir beaucoup d'amis, de contacts, de gens qui travaillent dans l'audiovisuel et qui avaient envie de pouvoir se lâcher sur un projet où ils pouvaient développer des trucs à eux. Et on a beaucoup d'amis qui sont regroupés dans des assos, dans des petites boîtes, pour contribuer à la chaîne. Sans ça, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. Ensuite, par rapport à la publicité elle-même, il faut voir qu'il y a 3 paramètres indispensables pour avoir de la publicité. La première, effectivement, c'est d'avoir une régie bien installée qui puisse se battre sur la chaîne, qui a les bonnes entrées surtout, notamment auprès des grosses centrales d'achat sur les gros budgets. Ensuite, il faut avoir une diffusion, je pense, au moins câblée, parce que c'est ça qui compte pour les annonceurs. Autant l'ADSL aujourd'hui est en déploiement supérieur au câble.
Oui, mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'actuellement vous êtes disponible dans beaucoup plus de foyers qu'il n'est disponible actuellement un réseau câblé.
Oui, à peu près à égalité. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour les annonceurs, la DSL, c'est quelque chose de personnel et le câble, c'est quelque chose de familial. Vous comprenez? Donc, un foyer équipé en câble, c'est 3-4 personnes pour eux. Un foyer équipé en ADSL, bah, ils y ont même pas encore forcément bien réfléchi.
Et puis surtout, l'audimat n'est pas encore disponible sur les raccordements télé en ADSL.
Et puis, effectivement, c'est le troisième point, il y a une mesure d'audience qui est adaptée à la vente de publicité, c'est MediaCapSat de Médiamétrie. C'est quelque chose qui est pour l'instant disponible pour le câble satellite et une partie de la DSL. Sans ça, on peut rien faire. Et ça, on l'a toujours pas. Parce que ça ne touche pas forcément encore vraiment. Mais c'est des choses qui vont se mettre en place. Après, il faut voir que... Comment dire ? Ce MediaCapSat, c'est une mesure d'audience, donc vous savez, c'est le panel représentatif de gens qui appuient sur un bouton pour dire « je suis en train de regarder telle chaîne, telle heure, machin ». Et sur la DSL, on sait qu'il y a des remontées, du feedback, de la box qui dit « bah voilà, tous ces spectateurs sont en train de regarder ça à telle heure ». Ça, c'est des chiffres aussi qui sont accessibles et auxquels on a accès depuis quelques mois, qui nous permettent de voir comment on fonctionne et d'adapter un petit peu la grille par rapport au flux des spectateurs. Mais ce n'est pas des chiffres qui peuvent servir pour la publicité encore.
Il manque notamment l'analyse qualitative de l'audience.
Non, non, pas du tout. C'est juste qu'il faut le chiffre du panel pour pouvoir vendre de la pub aujourd'hui. Et des chiffres, bien sûr, après importants, il faut une diffusion importante. Mais comme je vous disais tout à l'heure, bah, voilà, on est parti un peu comme des rebelles, comme des cow-boys à l'aventure. Maintenant, on sait un peu plus où on va.
On va vous laisser un petit peu souffler dans cette interview. Je suppose que vous avez compris que derrière, il y avait l'avion qui passait.
J'ai crié au moment donné.
Ouais. Oui, parce que c'est, voilà, on était sur la terrasse et on était en fait dans l'axe de Roissy. C'est très génial. Aussi, il a atteint du syndrome Alain de Greff dans la manipulation à deuxième voyelle de l'alphabet, donc c'est un vrai bonheur. Donc on a dû exceptionnellement aller faire
pub.
Oui, excusez-moi, oui, je sais. Exceptionnellement, donc on a dû monter l'interview, c'est pour ça que elle fait un peu monter. Et je sais, on a loupé 12h30, la régie finale s'excite. Là, il est 12h48. Et ben on les passe et puis voilà.
Salut, c'est Laetitia. Tu veux discuter avec moi ? Appelle-moi maintenant. Oh. Appelle-moi maintenant.
Oui.
Appelle-moi maintenant.
Oh.
Appelle-moi maintenant.
Oui.
Appelle-moi maintenant. Je t'attends.
Oui.
Bonjour, gars garçon.
Oh,
toi, ce soir, je sens que tu n'as pas envie d'un simple plan drague.
Ouh,
c'est une grosse bite que tu veux, genre des mondes pneus. Alors, envoie vite Chibre au Nazidis pour rencontrer des tas de gays garçons qui ont comme une bite, mais en plus grand.
Ouh, t'oublie pas, hein.
Une bonne bite, c'est avec Chibre au Nazidis. Grâce à Chibre, tu vas enfin pouvoir te faire vivre la rondelle.
D'accord. Je vois ce que c'est ton métier.
Ouh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?
C'est qui celui-là, maintenant, là ? Monsieur, vous n'avez rien à faire ici, là.
En fait, tu me dis que t'es comédienne, mais ton boulot, c'est de faire la pute, quoi.
Non, mais attends, chérie, je peux t'expliquer, là.
J'hallucine, là, c'est quoi, là ? On travaille, là. Les scènes de ménage, c'est dehors, là, hein ?
Tu m'expliques rien du tout. T'as ta valise devant la porte ce soir, et puis c'est tout.
Oui, bah, c'est facile de dire ça, hein, alors que t'as passé la nuit avec Renato la dernière fois. Moi, je commence à en avoir jusque-là.
Moi, j'en peux plus, là.
Vive le SMS Plus, hein. Pourtant c'est cœur de cible, c'est à fond jeunesse, oui. Oui Thomas. On va mettre une interruption musicale pour qu'ils aient un petit peu de temps là. On n'est pas pressé pour mettre de suite la suite. Encore une japonaiserie.
Ouais.
Delight, Go It In The Heart. Vous connaissez. Ben ça c'est un autre morceau de l'album précédent. EFO, Identified Flying Object. Non, c'est l'album suivant, excusez-moi. Infinity Within.
We'll be right back.
Midi 53 minutes et 33 secondes sur la poubelle des radios et JB qui vient de découvrir donc que Delight n'est pas new-yorkais.
Mais pour moi, effectivement, ça a toujours été un groupe new-yorkais avec effectivement le DJ qui est japonais. Mais tu m'en as appris d'un bien bel puisque le producteur est japonais, la maison de disque est japonaise, ils vivent au Japon. Mais c'est quoi ce monde?
On continue avec l'interview de Sébastien Ruchet, donc qui est le cofondateur, président de la chaîne No Life. Et les fonds sonores que vous entendez pendant l'interview, c'est extrait du site Overclocked Remix. Et ça, c'est un remix de...
Je sais pas, mais c'est pas du New Order, c'est sûr.
Allez, 83, un jeu Atari avec une grosse boule.
Pac-Man.
Non. Atari, j'ai dit.
C'est quoi
Abyss Pac-Man.
Pac-Baby.
Non, en 3D isométrique.
Ah non, je suis trop jeune.
3D isométrique.
Je suis pas assez geek. Pong.
Marble Madness. On a tous subi des élongations d'épaule avec ce jeu.
Les deux petits dragons en bague où tu tires des boules pour que ça fasse 4 boules.
Non, pas du tout. Non, c'est une boule que tu guidais par inertie avec un trackball.
Ah d'accord.
C'était horrible.
Le truc que tu
Bande
joues
de naze.
Avec ton iPhone 3G là.
Bande de naze. Ça vous apprendra à vous regarder l'émission du docteur Lacave. En attendant, on reprend avec Sébastien Ruchet.
Par contre, un souci.
Pourquoi ça marche pas d'ailleurs?
T'aurais pas une pièce?
Hein, quoi?
Il y a marqué Insert Coins.
Ah merde, c'est pour ça, j'ai appuyé sur play, ça marchait pas. Attends. Attends, je vais la mettre.
Est-ce que vous auriez aimé finalement vous lancer en associatif s'il y aurait eu l'équivalent de ce qui existe pour les radios associatives, c'est-à-dire un fonds de soutien à l'expression?
Je ne sais pas.
Alors pour faire très rapidement, les radios associatives sont financées par une taxe parafiscale qui est prélevée à hauteur de 2% sur les publicités audiovisuelles et c'est redistribué par une commission qui s'appelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique.
C'est dégueulasse, on va avoir moins de pubs alors.
On est à 10 000 euros de subvention.
D'accord. Bon, franchement, la télé... pour ce qu'on a vu jusqu'ici, on n'a pas eu de cadeau gouvernemental, rien du tout. Il n'y a pas de possibilité parce que comme l'audiovisuel coûte très cher à produire, c'est entendu que c'est vraiment dans un but lucratif de tous les côtés. Et bien sûr, No Life, c'est une entreprise commerciale et on aimerait bien gagner plein d'argent et faire plein de trucs. Mais il faut voir qu'on n'a eu aucune subvention, aucun cadeau, aucune facilité pour monter le projet. Une structure subventionnée... Bien sûr, on aurait pu avoir des facilités, on aurait sauté dessus. Maintenant, il faut voir qu'il aurait fallu des facilités assez importantes parce que la télé coûte cher à faire, vraiment. Et je ne sais pas s'il s'agit après de sommes assez importantes, je suis un petit peu en doute quant à la capacité à convaincre sur un projet qui peut paraître un petit peu différent de la télé classique, même si sur pas mal de points, ce qu'on a à l'antenne sur No Life est vraiment culturel. Enfin, la présentation du Japon, comme nous on le connaît, avec des intervenants toujours sous-titrés, sans voice-over, alors que toutes les télés actuellement sont en voice-over, pas nous. Et donc du coup, je pense qu'on aurait pu pouvoir prétendre des choses, mais il n'y a rien.
Et vu que vous faites de la production de dramatique, vous avez des séries, des séries que ça soit Nerds ou que cela soit Flanders Company, est-ce que vous auriez pu prétendre au financement du CNC?
Alors, Nerds et Flanders Company sont des productions extérieures à No Life. C'est justement des exemples de copains qui ont monté leur... une case en moins, ils avaient déjà leur assos. Ben voilà, c'est des productions d'associations. Le CNC, c'est assez complexe, hein, pour... Enfin, quand on ne connaît pas, c'est un boulot pour aller chercher tout ça. Et là, ils n'ont pas le temps, pas les moyens de faire ça. Peut-être, je ne sais pas.
D'un autre côté, on va parler peut-être un petit peu plus technique. Vous avez votre système de diffusion qui est dissocié de votre entreprise, puisqu'il est loué, il est chez TDF. Avoir les serveurs en extérieur, est-ce que cela entraîne des difficultés, voire parfois des gros soucis sur votre diffusion?
L'avantage avec les régies de diffusion numérique de Koenigsegg Image, c'est que Koenigsegg Image maîtrise vraiment la télé. Ils sont branchés partout, ils ont un système bien rodé et c'est super. Après, nous, on envoie les programmes via Internet, par FTP, Et pour émettre tout ça, on a une ligne Freebox, voilà. Et de laquelle on est complètement dépendante pour envoyer chaque jour les programmes. Donc 101% par exemple, ça fait entre 500 et 600 mégas. Donc chaque jour, on doit envoyer 101%. Et évidemment, c'est pas de l'envoi vitesse diffusion, ça prend, je sais pas, 1h30, 2h. Donc il faut bien gérer tout ça. Et par le passé, il est arrivé effectivement qu'on soit en retard à l'upload. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé aujourd'hui. On a pris de l'avance sur beaucoup des rubriques de 101%. On a des gens pour éviter ce genre de retard. Et franchement, entre la période 2007 et la période 2008 de No Life, il y a une grosse différence là-dessus. Je crois qu'on a été en retard une seule fois et c'était une erreur humaine de moins. Voilà.
Je crois que vous êtes même excusé à l'antenne.
Oui, bah oui, c'est plutôt normal. Non, enfin, j'ai fait une bêtise, voilà, je l'assume, désolé.
Mais du coup, c'est que des émissions qui sont préenregistrées. Est-ce que le direct vous manque ? Est-ce que l'envie de faire de l'événement, c'est par exemple ici à Japan Expo, ou couvrir un lancement d'une nouvelle console, cela vous manque quelque part ?
Le direct, outre le fait de pouvoir le faire, c'est beaucoup de matériel et beaucoup de moyens. Et je sais à quel point on pourrait de toute façon pas. Donc non, ça ne manque pas du tout.
Vous laissez ça à d'autres.
Oui, là on verra quand on aura de l'argent, hein. Franchement.
Quelles sont actuellement votre visibilité pour votre entreprise ? C'est sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an ou sur je n'ai plus à y penser dans l'immédiat ?
Ouf, je n'ai plus à y penser dans l'immédiat ? Non, mais bien sûr, là plutôt que de me soucier de caisse dans un premier temps, tenir sur la trésorerie, on peut réfléchir vraiment à de l'expansion à fond. Et là, on essaie de préparer des choses pour la fin de l'année, la main dans la main avec Ankama, des choses assez excitantes, j'espère. On va pouvoir répondre aux attentes de pas mal de gens. En tout cas, là, en fait, chaque jour que la gêne continue à émettre, c'est de l'impact de gagner, c'est de la crédibilité sur le projet, l'intérêt à tous les gens qui nous regardent. Merci à tous, hein, les gens. Mais c'est vraiment super, et du coup après derrière ça fait réfléchir des gens placés dans certaines boîtes qui se disent bah attendez, et ils sont pas encore tous au courant de ce qu'on fait, juste qu'on existe, mais on fait un peu une anomalie là, je sais pas, on doit être peut-être une des seules chaînes indépendantes, enfin peut-être à ce niveau de production en tout cas. Et c'est une expression de Cyril qui disait que c'était un putain de miracle. C'est vraiment une anomalie. En plus, avec aucune aide. Enfin, en tout cas, c'est cool.
Et surtout, sans gros investisseurs derrière. Est-ce que, de ce côté-là, point de vue visibilité, le manque d'EPG, d'annonce des programmes sur les box et dans les sites de programmes télé, vous manque ?
J'y travaille depuis des mois. C'est toujours pas en place. Et ça m'énerve.
On saurait quand même être plus simple. Ce qui est très étonnant aussi, vis-à-vis de votre chaîne, c'est la facilité avec laquelle on arrive à accéder, à discuter avec votre staff. Vous avez un site internet sur lequel il y a les blogs, il y a surtout un forum avec un fil de direct qui doit en être, je crois, à 1600 pages actuellement. 1400 27. Ouh, il le lit en continu, justement. Alors, bonne question, tiens. Ça vous prend combien de temps à lire tout ce ramassis de conneries ?
Ouais, c'est pas du tout un ramassis de conneries, c'est vraiment super. C'est très important pour nous, le feedback des gens. Sachant que No Life, bon, c'est pas non plus parfait diffusion. On peut avoir des soucis techniques, on est dans des technologies toutes nouvelles, pas encore prouvées. Donc on a dû essuyer des plâtres par le passé, on en aura toujours un petit peu à l'avenir. Et le retour des gens nous est important. On se donne tellement de mal en fait sur la chaîne. Il faut voir qu'au tout début, quand on s'est lancé 1er juin 2007, on a tenu jusqu'à mi-juillet de 2007, un mois et demi, on était à genoux. Ensuite, on a repris à la rentrée à septembre. On s'est dit comment on va tenir ? Je sais pas, mais là il faut y aller parce qu'on y est. Ok, fin octobre, on avait vraiment du mal. On a dû se booster, tout ça, mais on a tenu jusqu'à décembre. On s'est arrêté 10 jours de rediff. Puis là, de toute façon, on savait qu'on était dedans et on y est depuis janvier. On est un peu fatigué, mais on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de se poser des questions. Donc on avance. Et d'avoir le retour des gens, c'est vraiment très important parce que c'est quand on a passé la nuit blanche et les machins, c'est des choses qui font tenir.
C'est votre carburant principal ?
Un peu, ouais. Et puis s'il y a un souci, c'est sûr, S'il y a une faute dans un titre ou quoi, bah, les gens nous le disent et on n'a pas envie d'avoir de faute à l'antenne, donc tout de suite on peut le corriger et voilà. Désolé s'il y a un problème, mais il faut bien voir qu'on sera là pour le corriger parce qu'on veut que ça soit bien.
Sur les questions pragmatiques et de moyens, mais cette fois-ci de moyens humains, nos lives actuellement, c'est combien de salariés, combien de bénévoles, combien de stagiaires?
C'est illégal en France d'employer des bénévoles pour une entreprise. Après, je ne peux pas vous donner de chiffres précis.
C'est combien d'associations et d'entreprises qui tournent autour, qui fournissent du matériel audiovisuel à diffuser?
Alors là, on peut citer notamment Game Production, on en parlait tout à l'heure sur la musique française, mais aussi sur des émissions comme XP, Temps Réel, Temps Perdu. Il y a Phonetic Arts avec c'est une Incredible Horror Show, une case en moins avec tout ce qui est nerds, mais aussi pas mal de petits sujets, des spéciaux, l'instant kamikaze. Il y a Tux Productions pour tout ce qui est Geeks Life et encore des petites prods à côté. Et il y a enfin Peewee Prod qui, eux, s'occupent de Founders Company. Et j'en oublie peut-être, désolé, je suis un peu fatigué là avec Japan Expo, mais en tout cas, bon, bah, ça peut que croître, je pense. En tout cas, ils font tous un boulot fantastique, donc c'est vraiment une bonne partie de l'antenne. Même si on produit beaucoup de choses en interne, ça n'aurait pas suffi à faire la richesse qu'on peut voir aujourd'hui.
Quelle serait votre source de financement idéale pour se dire, No Life, ça y est, ça fonctionne, on a un public? Ce serait... de la publicité à tire-larigot, des accords de partenariat sur du SMS+, vendre des DVD sur vos productions ou des t-shirts?
Les SMS, c'est pas un truc qu'on aime vraiment beaucoup. En plus,
ah, dites pas ça devant nous.
Je croyais qu'on pouvait parler. Non, les SMS, c'est pas super. En plus, ça rapporte pas tant que ça. À moins d'être vraiment très dur sur les prix et on n'a pas envie de faire ça vraiment aux gens. La vente de goodies, c'est un truc où je pense que tout le monde peut se retrouver. Ça fait plaisir à plein de gens d'avoir des trucs et ça peut aider la chaîne, mais c'est pas une source de financement viable. Ou alors, waouh. Mais non, nous on est dans une source de financement prévue sur de la publicité.
Si quelqu'un est vraiment fan de votre chaîne et estime avoir le niveau qualitatif pour produire une émission, les moyens en propre pour le produire intégralement, puisque vous êtes chargé à la gueule de ce côté-là pour produire quelque chose de plus, est-ce qu'il a une chance de passer sur votre chaîne et dans ce cas-là, dans quelles conditions?
Alors, bien sûr, on est ouvert aux idées aux nouvelles émissions. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant j'ai une idée d'émission. Mais nous, on dort déjà pas beaucoup, on ne peut plus assurer là des productions d'émissions supplémentaires, c'est trop de boulot. Donc il faudrait que les personnes puissent le faire intégralement elles-mêmes. Et ensuite, il y a plein de choses à vérifier, ligne éditoriale, qualité technique. Donc pour juger de tout ça, le plus simple, c'est de pouvoir parler avec la personne en recevant un pilote. Donc un pilote, c'est une première émission type, même s'il y a des choses pas définitives, s'il n'y a pas de générique, ça permet déjà de voir tellement de choses et de savoir tout de suite si ça peut marcher éventuellement avec du travail, ça peut marcher directement tel quel, ou alors ça semble pas possible. Donc la chose à faire, c'est de réaliser un pilote et de nous l'envoyer.
Sébastien Rocher, quand vous avez le temps, quelle chaîne de télévision vous regardez, à part nos lives?
Je vous avoue que je n'ai pas trop le loisir de regarder d'autres chaînes actuellement. J'ai regardé un peu TF1 de temps en temps si je peux. Niveau moyen et niveau, c'est vraiment de toute manière des choses ahurissantes par rapport à nous. Enfin, gigantiques. Et c'est nécessaire d'être curieux, je pense, par rapport à ce qu'ils font. Mais je vous avoue que si j'ai un peu de temps, je lirai, je ferai un peu de lecture ou de jeux vidéo, que ce soit BD, bouquin, voilà.
Sébastien Rocher, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et donc une interview qui a été enregistrée en juillet dernier à Japan Expo à Paris, il nous a accordé beaucoup de temps.
Sous un escalier, en pleine bonne météo, c'était agréable, voilà. À la fraîche, en plein courant d'air, c'était bien.
On tenait à voir si le Sébastien Rocher, en vrai, avait des valoches sous les yeux. Il met de l'antiride. Voilà, ah, c'est son secret de jeunesse.
Alors imagine un producteur de la chaîne qui fait rêver tous les geeks qui ont entre 20 et 30 ans se faire prendre d'assaut à Japan Expo par une horde de c'est trop bien ce que vous faites.
Ah mais c'est fou, mais j'ai rarement vu, c'est-à-dire t'imagines dans une chaîne de télé où même le moindre preneur de son peut se faire aborder pour une demande de dédicace. Des trucs de fou furieux, enfin bon, c'est gros allumé, c'est là-dessus une vraie chaîne de passionnés. Qui pour l'instant est présent sur la DSL en télévision, chez Free, chez Alice et sur Neuf. Et ils ont annoncé donc cette semaine qu'ils arrivent sur Orange, sur le canal 111, pour le 11 septembre. Soit juste à temps pour la rentrée de cette chaîne de télé, ils prennent la rentrée le 15 septembre. Où il y aura le fameux match de catch d'ailleurs qui sera diffusé normalement, de ce que l'on sait via nos amis de chez Ankama. On a d'autres interviews d'ailleurs justement concernant le projet Ankama TV. Et ben, Todd s'en explique dans une interview qu'on a enregistrée là aussi dans le même événement et qu'on diffusera d'ici la fin de l'année, on verra. On avait déjà interviewé à propos de cette chaîne Rudy Pomaret pour une émission malheureusement disparue sur les blogueurs BD, c'était pas mal d'ailleurs. Et normalement on a une autre interview qui est prévue, ce sera le 22 novembre, notez bien cette date, on aura Davy, Didier et Monsieur Poulpe, 3 des 4 allumés de Une Case en Moins qui font donc la série Nerds et qui seront en dédicace à Toulouse le 28 et le 29 novembre lors du Toulouse Game Show. On y sera, j'espère.
Je t'aime Xavier, tu as mis Metal Gear Solid derrière.
C'est bien, t'as reconnu. C'est une interprétation au piano et orchestrale, voilà.
Musique de Harry Gregson-Williams, ça me faisait penser un peu à du Pirates des Caraïbes, et il a travaillé en collaboration avec Hans Zimmer, ce Pirates des Caraïbes, c'est pour ça.
Ouais, c'est bien, on voit les geeks, hein. Il y a précision ultra pointue à chaque fois. À propos de précision ultra pointue, lors de l'interview, on en était dans le forum de la chaîne en direct à la page 1427. J'ai pas tort, j'ai bien calculé, on en est à la page 1617, maintenant, aujourd'hui, le 30 août. Ouais, je savais.
Quel numéro du supplément week-end aujourd'hui?
168, 169, je sais plus.
Tu vois, il connaît mieux les pages du forum de No Life que le numéro de sa propre émission.
Non, c'est que je suis en retard là sur le podcast. C'est pas... Oui, je suis désolé, pardon, désolé pour le retard pour la mise en ligne.
C'est clair, j'arrive pas à suivre.
Musicalement, on ne remerciera jamais assez No Life pour nous avoir fait découvrir Heavenly Star, Alkali, Capsule, Polyzix, même si certains ont déjà été diffusés sur FMR, notamment via l'émission des Sanguinaires. Oui, je sais, ça soulève du sourcil, mais bon. Donc, voilà. Mais pour le coup, eh ben, on va vous faire découvrir un truc qui n'est pas sur No Life, c'est Pizzicato 5, trailer music, remixé par 808 State.
C'est très vieux ça, c'est très bien.
Je sais. Pas dans le micro, JB.
C'est très vieux, mais c'est très bien.
Extrait du remix album Happy Hand of You. Vous écoutez FMR 89.1, 13h10 sur la poubelle des stations. We'll be right back. Absolument, c'est génial ce remix.
On a vu notre producteur préféré danser partout derrière la console, c'était très bizarre.
ça y est, on a 100 auditeurs, puisqu'on a eu un coup de fil.
Ouais,
il y a toujours 10 fois plus sur le podcast, donc c'était Pete, qui est un ancien des bêtes, enfin qui fait toujours partie des bêtes, qui produisait l'émission Sanguinaire, qui dit non, et Coco, t'es plus à la page. C'est vrai, ça s'appelle maintenant Le Doigt dans la Morve, et c'est désormais le mardi 17 à 19. Et il regarde beaucoup nos lives et il dit t'aurais pu poser des questions autrement moins techniques.
Bah quoi ?
Bah oui,
on est en été, on a fait une interview longue, sinon on savait. Hein. Et puis nos lives, ils passent des trucs extrêmement techniques. Quand tu regardes les émissions sur les démos Amiga ou sur la fabrication du sushi ou des trucs comme ça, je suis désolé.
Mais curieusement, c'est peut-être pour ça qu'on m'entend pas beaucoup dans l'interview.
en même temps, chers auditeurs, veuillez nous comprendre, c'est Xavier qui posait les questions.
Voilà.
Et quand on le connaît, voilà, on sait à quoi s'attendre.
D'accord, merci. J'ai compris.
En même temps, JB, c'est parce que tu viens pas souvent, parce que Xavier est assez coutumé du fait de danser derrière la table de mixage.
Mais je viens de plus en plus souvent.
Oui.
À part la semaine dernière, parce que vous aviez l'émission ailleurs qui a duré que très peu de temps. Combien de temps vous avez tenu ?
On a tenu une demi-heure.
Waouh !
Respect.
Et voilà, ben on avait de l'actu, on pouvait pas passer. C'était d'ailleurs à propos du DVD Peur dans le noir et puis tout le reste.
Peur du noir.
Et peur du noir. Et t'as préparé quelque chose là pour cette émission ?
Bah oui, mais je l'ai laissé.
Ah d'accord, bon, ok. Bah,
je t'ai appelé, je disais j'ai un problème, j'ai trop de boin. Franchement, j'étais avec du monde au taquet et j'ai refusé du monde. J'ai dit bah, écoutez, je suis désolé.
Oui, parce que JB utilise sa pause déjeuner entre midi et deux pour venir dans le studio. Lui, il déjeune pas, il vient se nourrir de nourriture spirituelle. Et Thomas, qui lui, voilà, il va parler de cinéma.
Oui. Ouais.
Non, désolé. J'arrête là.
Le jingle. Ouais, en fait, c'est surtout un bouquin sur le cinéma.
Merde.
Mais remets le jingle, c'était sur le cinéma quand même.
En Dolby Mono Surround, un bouquin folio de 192 pages.
Combien ?
Je dis ça à vue. Hein.
180, t'étais pas loin.
Ah yes ! On reconnaît le bibliophile.
Alors, il s'agit de Tir groupé de Laurent LB et c'est édité chez Panic.
Laurent LB, le spécialiste, celui qui a fait le bouquin Ciné Hong Kong.
Tout à fait.
Celui qui nous tient la nique sur Radio Campus.
Ah, je savais pas qu'il était sur Radio Campus.
Était sur Radio Campus.
D'accord.
Celui qu'on a reçu plusieurs fois aussi, avec beaucoup de plaisir.
Et c'est édité chez Panic, dans la collection Rappel Cinéma. Alors, Tir groupé, c'est une succession de textes sur le cinéma de genre des années 80, surtout américain, mais aussi australien, italien, hongkongais. Comme l'a dit Xavier, l'auteur avait déjà fait l'excellentissime Ciné Hong Kong, qui était un panorama du cinéma hongkongais, surtout à partir de l'âge d'argent, vers le cinéma plus récent qu'on connaît dans les années 90. Alors, tiers groupé, donc ce sont des textes sur des films des années 80. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir vu au préalable les films, hein, puisque pour deux raisons, puisque la première, c'est que les films sont dans la majorité peut-être introuvables ou difficilement visibles en tout cas, et puis surtout que les textes, certains, une majeure partie, sont faits avec un humour dévastateur et se suffisent quasiment à eux-mêmes.
De ce côté-là, d'ailleurs, c'est un peu Ciné Hong Kong, c'est vrai, est d'une lecture assez réjouissante parce que des fois, il dit vraiment ce qu'il pense.
Et c'est vrai qu'il s'attaque toujours à des filmographies qui justifient aussi avec des filmographies de genre et des films déjà bien barrés à la base. Donc en même temps, les textes, ça donne aussi vachement envie d'aller voir les films après. Alors que le bouquin est divisé en plusieurs parties, en plusieurs chapitres. Donc on a les films d'autodéfense et de vigilante américains. Donc évidemment, beaucoup de films de Charles Bronson, bien sûr.
Quoi ? Et Bronson ? Ouais. Et pas du meilleur vendeur d'extendeurs électrostimulants, Chuck Norris.
Il y a aussi Chuck Norris, mais pas Charles Bronson est quand même vachement mieux représenté. On a des films post-apocalyptiques italiens, c'est la partie la plus réjouissante où tu te pisses dessus de rire.
Ouais, je sais, c'est pour ça que je m'abonne à Cinéfix.
Voilà. On a les films sur la drogue, donc évidemment Tony Montana a droit à une grosse partie. Et on a aussi un passionnant chapitre sur les films d'envoyés spéciaux et grands reporters. Et c'est l'occasion de souligner qu'il y a l'excellent film Salvador d'Oliver Stone qui a été diffusé la semaine dernière sur Direct 8. Dans ce chapitre, un texte sur Under Fire, il y a sur L'année de tous les dangers, Boat People Dan Nui, le film hongkongais, encore une preuve que Laurent Lebet est encore passionné de cinéma hongkongais, il essaie de le caser un peu partout. Et l'occasion aussi un petit peu reparler de ciné Hong Kong, puisque du sport nous avait dit: quelqu'un qui parle ainsi d'Anthony Wong ne peut pas être un mauvais bougre. Donc, y a aussi un excellent chapitre qui va certainement contenter tous les fans de Big John, de l'excellent John Carpenter, puisque c'est un chapitre sur The Thing et sur les aventures de Jack Burton, puisque le début des années 80...
Dans les griffes du mandarin.
Dans les griffes du mandarin, l'Opan.
Merde, je l'ai pas dans la bande. Je l'ai pas dans la bande.
Et donc c'est oui, parce qu'il insiste aussi sur le début des années 80 qui a vu la carrière de John Carpenter prendre un sacré tournant, puisque le type avait commis avant Halloween, The Fog et New York 97, et sa carrière aurait pu le précipiter dans la galaxie des réalisateurs multi-oscarisés, sauf que The Thing a été un four parce qu'il est sorti en même temps que E.T. Il était mal luné, donc...
Un méchant extraterrestre informe ou un gentil petit extraterrestre gentil extraterrestre qui te fait supprime tous les problèmes de la vie. Alors voilà. Que le méchant extraterrestre avec le doigt qui brille, lui, on ne sait pas ce qu'il va te mettre avec le doigt.
Non, t'as fait la confusion. Mais oui. C'est vrai qu'un doigt est assez redoutable. Donc voilà, excellent chapitre. De toute façon, consacré à John Carpenter, c'est quasiment impossible de rater des textes sur ce mec. Alors, je vais te reprendre le bouquin, par contre. J'avais mis un marque-page et je vais revenir sur
je croyais que tu l'avais pas lu en entier.
Les films, non. C'est, de toute façon, c'est un bouquin qui se dévore.
Tu veux mon doigt?
C'est un bouquin qui se dévore en un jour ou deux, hein, de toute façon. Alors, c'est sur un film qui s'appelle Rush de Tito Carpi. Alors je vais vous lire le passage, ça fait deux pages, mais bon. Alors, illustré par le sympathique Francesco De Masi et interprété, enfin plus ou moins, par Conrad Nichols, dont le maillot de corps, la façon de se mouvoir, les mimiques faciales et le total sérieux de la composition seront scandaleusement repompés par les fourbes Sylvester Stallone dans Le Naze Rambo 2 et Charlie Sheen dans L'Hilarant Hot Shot 2, le scénario raconte les pérégrinations champêtres, puis urbaines, puis champêtres, d'un certain Rush dans le monde zampitié de l'apocalyptique terreur de l'après-guerre nucléaire. Dans une carrière à l'abandon, il se frite avec un type vêtu de cuir et de haillons, ou l'inverse, ou juste un des deux, et le décapite. Juste pour le fun. Eh oh, faut suivre, c'est Tito Carpi, scénariste, bordel. En fait, Rush, qui pratique le karaté, vient de protéger une plante verte qui poussait par là. Il l'arrose, remonte dans son buggy de golfeur caréné façon un certain film de George Miller et, comme disaient les Perses, trace jusqu'à un plateau à l'abandon de Chinechita ou une rue Destroy qui traîne par là en attendant le micheton, représentant une cité en ruine évoquant vaguement une rue d'un certain film de John Carpenter. C'est le seul décor valable du film. Là, poursuivi comme un vulgaire figurant par des soldats post-fascistes qui patrouille dans le coin en se croyant dans une suite de La Planète des Singes ou Soleil Vert, il est avec ses compagnons, in your face, d'infortune, post-fait prisonnier pour servir de post-esclave dans les usines post-polluantes de l'immonde en chef, le vétéran Gordon Mitchell, yeah, et ça clique. Comme dans... Alors, les petits trucs en plus, ça, c'est pas moi, c'est dans le bouquin. Comme dans L'Âge de Cristal, les tenants du pouvoir se la jouent paternalistes et maintiennent dans l'ignorance la communauté qui ne fait donc que se douter qu'ailleurs, le taux de radiation est revenu à la normale et que la nature reprend ses droits. Autant vous le dire de suite, comme ça, en aparté, entre parenthèses, juste toi et moi et baby, les cums et les poulettes sous le joug du dictateur sont un peu cons quand même, vu que ceux qui ne glandent pas dans les carrières et les couloirs souterrains bossent dans des serres situées dans un camp de travail entouré de collines boisées. Comme Rush sait que l'équipe doit torcher le tournage en 15 jours, il organise la révolte. L'ensemble des premiers rebelles se fait massacrer ou est repris dans cette tentative dont seul réchappe Rush. Super malin, l'animal se planque dans la forêt et nous refait un certain film de Ted Kotcheff. Puis, parce qu'il est quand même super cool et qu'il se taperait bien la prisonnière que lui ont fait rencontrer les futurs insurgés, retourne au camp de travail et à l'usine, liquide les méchants, y compris Gordon Mitchell, là c'est limite indéfendable quand même. Et dans l'ultime image arrêtée, sourit à la caméra, bien que tous ses compagnons, y compris la bonasse, se sont fait trucider. Faut dire que l'usine est dorénavant à l'arrêt et que l'assistant caméra vient d'enlever le filtre orange pour en mettre un bleu si vous vous situez bien la symbolique. Bref, c'est aussi génial que l'on pouvait s'y attendre. voilà, c'est que des textes comme
c'est
ça.
C'est du grand Laurence.
Voilà, et
il est très bon.
Donc vous comprendrez, c'est pas utile de voir le film après, mais ça donne quand même envie. Donc, de toute façon, Tiers groupé de Laurent LB est un ouvrage à dévorer absolument sans modération, une pile de DVD de Charles Bronson sur la table basse et des vieux posters de Mad Max au mur. Et c'est édité chez Panic dans la collection Rappel Cinéma.
Ça va être vraiment d'être un cinéphage.
Ah oui,
pas trop le cinéphile, mais carrément le cinéphage. Je vais au vidéoclub.
Cinéma de genre, je te rappelle qu'il a fait partie des faubourgs du cinéma. La Cinémathèque de Toulouse, donc tous les films Z, X, non classés parce qu'on a perdu l'étiquette, donc on ne sait pas quel est le film qu'il y a sur la bobine. Ils les ont vus avec Alex Masson, Franck Priot et le professeur Thibault.
Et aussi une précision sur le bouquin, puisque tout le bouquin n'est pas fait avec de l'humour comme ça. Il y a aussi, je parlais des films de grands reporters, il y a aussi un gros travail de documentation derrière où il va situer la situation géopolitique dans les années 80 sur les pays d'Amérique latine dont il est question dans ses films de grands reporters. Et il se justifie aussi sur le fait qu'il se borne en fait à se moquer de films d'exploitation comme ça. Alors il se justifie pour trois raisons, c'est-à-dire que la première c'est que de toute façon c'est une culture comme les autres, donc c'est toujours bon d'en parler. Deux, bah, de façon il rend hommage à tout un pan de cinéma qui ont été biberonnés les lecteurs de Starfix. Et troisième raison, bah, de toute façon le cinéma de cette époque-là avait été plus fou, il avait plus de couilles que le cinéma d'exploitation aujourd'hui qui est juste médiocre en fait. Voilà.
Je ne pense pas, mais ça c'est. Je pense, honnêtement, je crois pas trop parce que on voit toujours autant de merde qu'avant, sauf que les souvenirs s'estompent et on oublie que c'est exactement c'est la même chose qu'il y a par rapport à avant, sauf que c'est
JB, avant que tu aies pris trop de Bernard-Henri Lévin, juste une chose, Jean Rollin, il ne tournerait plus des films maintenant en France.
Si, ça existe toujours de ce type de personnage qui tourne des films. Mais c'est pas mis en avant, c'est tout. Moins mis en avant, mais ça existe toujours.
Il faudrait faire une manif devant le Gaumont. Les références, pardon.
Oui, donc l'auteur c'est Laurent LB. Le bouquin s'appelle La Tiers Groupée. C'est édité chez Panic dans la collection Rappel Cinéma.
Et je vais faire donc la télévision. Et à la place du sport.
Il est également l'auteur d'un bouquin sur Walter Hill que tu lui as acheté. Que je crois que tu n'as toujours pas lu.
Sur la pile à lire avec les 80 bouquins à côté. La télévision ce soir sur M6, la nouvelle saison de Smallville et de
Somebody
la demi-saison
save me.
Et la demi-saison de Jericho avec donc les fameux épisodes, la fin de la première saison qu'ils n'ont pas diffusé, où à la fin tu as le personnage principal qui dit nuts Et comme CBS a dit, bon ben on arrête de diffuser la série, elle n'intéresse personne, etc. Et ben il y a des milliers de fans. Tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé au siège de la CBS à New York des cacahuètes. 3 tonnes 2 de cacahuètes livrées dans le hall de CBS avec marqué Nuts en gros dessus et rendez-nous Jericho. Voilà, et c'est comme ça qu'ils ont fait une demi-saison. Ils ont dit bon allez ok, hein, vous faites le final et puis voilà. Donc voilà, donc on les a enfin sur M6 avec un doublage. Je rappelle que les doublages des deux frères est à pleurer de rire, on a déjà passé l'extrait. Donc voilà.
Et tu parlais de Smallville, j'ai montré à Sabrina qui a regardé ça avec horreur que il y a Sheriff Fais-moi peur qui est diffusé sur la TNT en ce moment et on a reconnu donc le père de Clark Kent dans Smallville qui joue Beau Duke dans un fameux épisode où Roscoe Pecotran avait pété un câble parce qu'il avait gagné au loto, il est devenu disco. Voilà, bref.
Du sport revient vite, la programmation télé c'est n'importe quoi.
Je vous apporte le télérama la semaine prochaine. Hein, on fait
non, pas, non, du sport revient là normalement. C'est le supplément week-end numéro 169 spécial No Life avec l'interview de Sébastien Rocher à Japan Expo. Thomas, pour ceux qui ont manqué le début de l'émission, est-ce que tu peux en faire un résumé, je te prie ?
Ah bah tiens, on a eu une interview de Sébastien Rucher pour No Life, on a eu JB qui était parmi nous, qui devient maintenant une tradition et qui sera toujours là. Et
il l'a pas préparé,
Eh oui, mais non, ça... Hein ?
Tu veux toujours mon doigt ?
Après. D'accord. Et on a eu également une dédigression sur la société Moulinsart et également la chronique d'un bouquin sur le cinéma de genre. Voilà. En fait, un procès verbal assez léger aujourd'hui, puisque je ne l'ai pas écrit, donc c'était de l'impro. Oui, JB ?
De Moulinsart, on pourrait l'avoir en podcast ?
Oui.
Mais je te file la feuille, Stanley.
D'accord.
La feuille de news. Nom d'un Please Insert Quint to Continue. Ils sont manqués tout ça, heureusement. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans vos archives, laisser vos commentaires, poser vos questions, farfouiller dans les liens, laisser vos commentaires et plein d'autres conneries. Je rappelle que si vous posez des questions à partir de septembre, on fait gagner des bouquins si les questions sont intéressantes. Soyez bons. Il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.tk, supplémentweekend.tk sans accent ni tiré. Ou chercher supplément week-end
dans Google,
ça marche, on est tout en haut.
T'es trop fort.
Ah ouais, je suis le roi du page ranking. Supplément week-end MP3 ou supplément week-end FMR si vous voulez être sûr d'arriver tout en haut. Ça c'est pour ceux qui nous écoutent sur la FM, parce qu'après pour tous les autres, hein, ils connaissent déjà l'adresse. Voilà. La suite des programmes sur FMR avec pas de cahier sportif, mais à partir de 15h du reggae et à 17h sur 89.1, au FMR c'est de la place à Booster FM. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Avec le retour de du sport.
Voilà.
Et dans une nouvelle saison ?
Oui.
Normalement, là ça y est, j'ai trouvé le nom. On va l'appeler La Rénovation.
Mais c'est pas un titre, c'est pas un titre ça.
Mais c'est génial La Rénovation. La suite du débat la semaine prochaine, vous saurez peut-être quel est le nom de la nouvelle saison, avec peut-être le nouveau générique.